Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue et merci d'être à notre écoute. Travaillez pour que les jeunes revivent leurs rêves brisés et que les enfants retrouvent le sourire dans un monde marqué par des guerres. Des mots du pape François aux frères de l'instruction chrétienne de Plo-Hermel, François les a reçus lundi à l'occasion de leur chapitre général. Nous sommes appelés à devenir des artisans et des bâtisseurs de la maison commune, la terre qui tombe en ruine. Message du pape François à l'occasion de la journée mondiale de la terre nourricière célébrée lundi 22 avril sur son compte X. Concernant la journée mondiale de la terre nourricière, vous suivrez dans cette édition notre invité sur l'importance d'éduquer à une plus grande responsabilité environnementale. Jubilé des 60 ans du retour des pères palotins au Cameroun, célébration de la 61e journée mondiale de prière pour les vocations en Côte d'Ivoire. Les détails à suivre dans l'actualité de l'Église. L'actualité sociale et politique en Afrique nous conduira notamment au Mali,
en Afrique du Sud, au Togo.
Encore une fois, bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Stanislas Kambashi.
La guerre fait perdre aux enfants les sourires. Dans les pays en guerre, les enfants cherchent à jouer, même sous les bombes. Travailler pour que les jeunes reprennent la capacité de sourire. Recommandation du pape François en recevant lundi les frères de l'instruction chrétienne de Plo-Hermel. Ces religieux qui œuvrent notamment dans les domaines de l'éducation sont réunis à Rome pour leur chapitre général au moment où ils célèbrent les bicentenaires de la fondation de leur institution présente dans 26 pays du monde. Plus de détails avec Françoise Niamien.
L'évangélisation des enfants et des jeunes par l'éducation est le charisme des frères de l'instruction chrétienne de Plo-Hermel, congrégation fondée en 1819 par le vénérable Jean-Marie de Lamennais et le père Gabriel Deschailles. Dans son discours lundi, le pape a invité les religieux à retourner aux intuitions fondatrices de leur institution, celle d'être des pères, des vrais missionnaires pour les jeunes. Chers frères, vous travaillez dans les régions du monde où sévissent la pauvreté, le chômage des jeunes, des crises sociales de toutes sortes. Je vous invite donc à être des pères pour ceux vers qui vous êtes envoyés, des pères qui reflètent le visage aimant et compatissant de Dieu, a dit François. Que votre présence soit une source d'espoir pour beaucoup, spécialement pour les personnes qui vivent dans les périphéries, les blessés, les victimes, les rejetés. Il convient surtout d'aider les jeunes à revivre leurs rêves brisés à cause de plusieurs facteurs, à croire en eux et à les réaliser, a dit le pape. François a exhorté les frères de l'instruction chrétienne de Plo-Hermel à travailler en étroite collaboration avec les diocèses où ils sont en mission et les peuples de Dieu. En concluant son discours, le pape les a invités à renouveler, au terme de leur chapitre général, la consécration de leur institut au cœur immaculé de Marie et à trouver en elle l'inspiration pour leur pédagogie.
Merci Françoise. Le 22 avril a marqué la célébration de la journée mondiale de la terre nourricière. À cette occasion, sur son compte X, ex-Twitter, le pape François a lancé un message en faveur de la protection de la terre. Je cite « Notre génération a légué des nombreuses richesses, mais nous n'avons pas su préserver la planète et nous ne préservons pas la paix. Nous sommes appelés à devenir des artisans et des bâtisseurs de la maison commune, la terre qui tombe en ruine. » Fin des citations. Nous reviendrons sur la journée mondiale de la terre nourricière dans notre rubrique au cours de cette édition. Prendre un nouveau départ, faire une pastorale de la résurrection à la suite du Christ bon pasteur. Que le jubilé des 60 ans apporte un dynamisme nouveau à la paroisse de Lonkang, située au centre de Yaoundé. Des mots de Mgr Jean Barga, archevêque de Yaoundé, au cours de la célébration d'un double événement dimanche. Les 60 ans du retour au Cameroun des missionnaires palotins qui implantèrent l'église catholique dans ce pays d'Afrique centrale en 1890, ainsi que les 60 ans de création de la paroisse Saint-Vincent Paloti qui marqua ce retour. Paul Valéry Mendongo nous en parle.
La paroisse Saint-Vincent Paloti, située au cœur de la ville de Yaoundé, était parée de ses plus beaux atours pour marquer le 60e anniversaire de sa création. Pour l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Mgr Jean Barga, l'événement est plus que mémorable.
Une belle fête d'action de grâce, un grand jubilé qui nous fait remonter à l'histoire même des origines de la foi catholique dans notre pays.
En effet, en 1890, les missionnaires palotins qui implantent l'église catholique au Cameroun quittent le pays après la Deuxième Guerre mondiale et reviennent quelques années plus tard pour suivre leur mission à partir de cette paroisse qu'ils construisent en 1964.
Cela nous donne de reconstruire l'église sur les fondements même de la première communauté chrétienne, avec ses quatre assiduités, à savoir la parole de Dieu, la communion fraternelle, l'Eucharistie et la passion pour la prière. Nous proposons donc cet itinéraire fondé sur les racines même de l'Église, afin que ce jubilé des 60 ans apporte un dynamisme nouveau à cette belle paroisse située au cœur de la ville de Yaoundé, et que là, toutes les catégories du peuple de Dieu puissent y trouver un regain de vie, une joie d'être chrétien au cœur du monde.
En 60 années, que de prouesses dans les domaines infrastructurels et spirituels. Paul Valéry Mondogo, DDA pour Radio Vatican.
À l'occasion du dimanche du Bon Pasteur, également journée mondiale de prière pour les vocations célébrées dimanche, les pères Augustin Aubrou, curé de la paroisse Bon Pasteur de Cocody-Rivière-à-Troyes dans l'archidiocèse d'Abidjan, a invité les parents à laisser leurs enfants embrasser le Christ. Les célébrants a par ailleurs exhorté les fidèles à prier pour les vocations aussi bien sacerdotales que religieuses. Les détails de Marcel Ariston Blé.
Dimanche du Bon Pasteur. Les fidèles de la paroisse Bon Pasteur de Cocody-Rivière-à-Troyes, dont l'archidiocèse d'Abidjan, étaient dans la joie. La communauté célébrait sa fête patronale, mais également, elle a prié le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers à sa vigne. La messe marquant cette 61e journée mondiale de prière pour les vocations, présidée par le père curé Augustin Aubrou, a été l'occasion pour lui d'inviter les parents à l'entame de cette Eucharistie, à laisser leurs enfants embrasser le Christ.
Nous avons besoin de pasteurs, non pas seulement dans notre église paroissiale, mais nous avons besoin de pasteurs dans le monde entier et susciter chez les parents une écoute favorable. Parce que les enfants, ils sont nombreux qui ont la vocation, qui veulent devenir prêtres ou bien qui veulent devenir religieuses. Mais ce sont les parents souvent qui sont les freins. Parce que les parents disent, non, toi tu dois être médecin, toi tu dois être avocat, toi tu dois être pilote. Or, les enfants veulent. Il suffit de créer un environnement et les enfants tout de suite auront cette vocation.
Lors de cette messe qui a vu la présence de nombreuses religieuses et de séminaristes, l'occasion fut donnée à sœur Edith et Théodora Deaware de Notre-Dame de l'Église de partager à l'Assemblée la naissance de sa vocation. La religieuse, au terme de ce récit captivant, a exhorté les jeunes filles et garçons à venir à Dieu. Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Au Mozambique, pays déchiré par la guerre, les évêques instituent la prière pour la paix dans le cadre aussi de l'année jubilaire 2025 de l'Église universelle. Chaque premier dimanche du mois sera désormais consacré à la prière pour la paix. À l'approche des festivités de l'année jubilaire 2025 et du 50e anniversaire de l'indépendance du Mozambique, conscient de l'urgence et de la nécessité pour la paix, nous lançons un appel à la prière pour la paix dans notre pays, ont déclaré les évêques mozambicains. Les prélats précisent par ailleurs que l'appel à la prière pour la paix était motivé par la recrudescence du terrorisme et de l'insurrection armée qui accroît les souffrances de notre peuple. Actualité sociale et politique en Afrique. Plus de 110 civils sont retenus depuis 6 jours par des djihadistes présumés dans les centres du Mali, ont affirmé lundi des sources locales. Ces civils ont été arrêtés le 16 avril à bord des 3 bus par des djihadistes qui ont contraint les véhicules et leurs passagers à prendre la direction d'une forêt entre les localités des Bandiangara et des Bankas au centre, selon un regroupement d'associations de cette région qui réclament leur libération et un élu local. Un tribunal sud-africain a autorisé lundi les nouveaux partis soutenus par l'ancien président Jacob Zuma à utiliser son nom et son logo lors des élections générales de fin mai, rejetant un recours du Congrès national africain ANC, parti au pouvoir. La haute cour de Durban a statué en faveur du parti Mkoto Wesizwe dans le dernier épisode d'une série de batailles judiciaires entre l'ex-dirigeant Zuma et son ancien parti, l'ANC. L'ANC, au pouvoir depuis la fin de l'apartheid, a tenté d'empêcher le nouveau parti d'opposition radicale de M. Zuma d'utiliser les noms Mkoto et Sizwe en invoquant un vol des propriétés intellectuelles car ce nom était celui de la branche armée de l'ANC que Nelson Mandela dirigeait depuis son exil pendant l'apartheid. Le parti au pouvoir au Togo était en campagne dimanche avant les élections législatives et régionales du 29 avril, malgré la contestation autour de la nouvelle constitution adoptée définitivement vendredi par l'Assemblée nationale. Plusieurs centaines de militants et sympathisants de l'Union pour la République parti au pouvoir se sont réunis à Lomé, la capitale, arborant les t-shirts frappés du portrait de Faure Gnassingbé, président du parti et chef de l'État togolais. C'est en toute sérénité et en toute confiance que nous allons à ces élections. Nous sommes sur le terrain depuis plus d'une semaine. Les populations sont prêtes à voter pour les partis. L'Union pour la République a souligné Hesu Passiwe, candidat du parti aux législatives. Et concernant la question de la nouvelle constitution au Togo, dans une déclaration fin mars 2024, la conférence épiscopale de ce pays d'Afrique de l'Ouest avait manifesté son inquiétude par rapport à cette nouvelle constitution. Les évêques togolais avaient à cet effet invité les présidents de la République à sursoir la promulgation de cette nouvelle constitution. Contre toute attente, les députés togolais ont voté cette nouvelle constitution vendredi dernier. Une situation que regrette Mgr Benoît Alouonou, évêque de Kpalimé et président de la conférence épiscopale du Togo. On l'écoute.
Je ne parlerai pas d'une réaction de l'Église, mais d'un sentiment de grande tristesse. Oui, tristesse, car notre pays a besoin d'apaisement et de vérité. Or, cette modification de notre constitution, qui intervient à quelques jours des élections législatives, est manifestement source de division, source d'incompréhension. Et puis, on se demande où allons-nous? Et à la crispation entre les citoyens de notre pays.
Pouvons-nous croire que cette nouvelle constitution est source de division du peuple togolais?
Dans notre pays aujourd'hui, chacun voit de son côté une grande division puisqu'il n'y a pas de compréhension. Et étant donné aussi que ce que nous avons demandé, ce que le chef de l'État même a demandé, une large consultation, et cette consultation a été largement étroite.
Les élections législatives ont lieu le 29 avril prochain. Est-ce que l'Église catholique, par sa commission justice et paix, fera-t-elle partie des observateurs à ce scrutin?
C'est notre devoir de citoyen, de contribuer à la transparence des élections chez nous. À ce sujet, en tant que pasteur, nous avions effectivement fait la demande de participation de 500 observateurs. Mais nous pouvons dire que les 500 observateurs seraient un signe de témoignage de transparence. Mais notre demande a été refusée parce que nous n'aurions pas justifié la source du financement de notre mission d'observation. Ce n'est pas la première fois que nous sommes recusés sous ce motif. Nous avons toujours répondu à ce sujet que nos observateurs étaient des bénévoles venus des 7 diocèses du Togo. Nous n'avons pas besoin de financement parce que les paroissiens, ce sont des fils et filles du pays, des citoyens. Puisque nous n'avons pas pu justifier l'injustifiable, on nous a dit que nous ne pouvons pas. De toutes les façons, on ne désespère pas.
Au regard de la présente situation, quel message souhaiteriez-vous adresser aux autorités de votre pays et au peuple togolais?
Mais le message ne serait que le message d'amour, de paix, une invitation à écouter la conscience, sa propre conscience. Le message de l'Église est un vibrant appel à nos autorités, un message à écouter le peuple, entendre son inquiétude, son incompréhension sur ce sujet de modification de la Constitution. L'Église réitère donc son appel à être à l'écoute de l'aspiration de notre peuple à plus de justice, de vérité et de paix. Nous avons invité à la prière. Nous avons toujours confiance à celui-là qui est notre Dieu, notre Créateur, et à sa mère. Le nom du Seigneur est notre secours.
Interrogé par Françoise Niamien, Mgr Benoît Alouonou, évêque de Kpalimé et président de la Conférence épiscopale du Togo. Comme nous le disions, le 22 avril marque la journée mondiale de la terre nourricière. Célébrée depuis 1970, cette année marque la 54e édition. Une célébration qui constitue un moment clé pour réfléchir sur l'impact des actions humaines sur l'environnement dans lequel nous vivons. Il s'agit de la troisième journée célébrée dans le cadre de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. C'est également l'occasion d'éduquer et d'encourager à une plus grande responsabilité environnementale, à la fois dans les choix quotidiens des individus et dans les stratégies à long terme, comme nous l'indiquent les professeurs Jean-Willy Ndemi Killing, ingénieur topographe, spécialiste en sciences de l'environnement et recteur de l'université du CEPROMAD à Inongo en République démocratique du Congo.
Terre nourricière, c'est la planète Terre. Et nous pouvons même ajouter un élément pour dire que Terre nourricière ici, non seulement la planète Terre, nous pouvons parler de l'environnement. Parce que l'environnement et la planète Terre, il n'y a pas vraiment de différence. Vous allez remarquer que les composantes de la planète Terre, c'est les mêmes composantes de l'environnement. La Terre nourricière ici, on fait allusion à la Terre qui est le support même de l'humanité, la Terre que nous devons protéger contre les érosions hydriques pluviales. Pourquoi on doit protéger? Mais on doit protéger parce que lors de l'occupation du sol, lors de l'occupation de l'espace, il faut que les citoyens du monde puissent respecter les normes urbanistiques.
Quel rapport établissez-vous entre la Journée mondiale de la Terre nourricière et les érosions et d'autres catastrophes que le pays comme la République démocratique du Congo connaît?
C'est une dégradation du sol. Si nous devons occuper l'espace n'importe comment, on serait en face des érosions qui vont dégrader notre ville, notre cité. Et nous sommes appelés à protéger la terre.
La gestion des déchets ménagers, plus particulièrement des matériels plastiques, est un autre défi que la communauté internationale est appelée à relever pour pouvoir conserver la terre nourricière. Qu'est-ce que vous en pensez?
Les plastiques, les sachets en plastique, c'est en termes de matière première. C'est l'homme qui n'arrive pas à bien gérer la gestion de l'homme avec la gestion des plastiques, la gestion des sachets en plastique. Alors, s'il y a une bonne gestion qu'on peut valoriser, qu'on peut recycler, qu'on peut réutiliser les déchets, en dire vrai, c'est une matière première. Il y a de l'argent dans les déchets. Revenons d'abord à notre terre nourricière. La terre est parmi des ressources environnementales et stratégiques. Les ressources environnementales et stratégiques, ce sont des ressources qui amènent la guerre. Dans ces ressources-là, nous avons le coltan, nous avons le pétrole, nous avons l'uranium. Il y a l'eau, eau douce. Même la guerre aujourd'hui partout au monde, dans notre pays ici, à l'est de la République, c'est à cause de l'espace, à cause de la terre. Alors, le conseil que nous voulons donner ici, c'est quoi? Nous sommes en train de faire l'éducation environnementale pour que nous puissions faire notre gestion avec les gens hydriques pluviales. La gestion durable des déchets ménagers solides, voire même les déchets ménagers liquides aussi, parce qu'il y a des caniveaux que nous devons mettre pour que ces déchets liquides-là puissent être conduits, mais après avoir été traités. Mais les déchets ménagers solides, nous devons organiser la gestion de ces déchets-là. Au niveau des ménages, là où on va construire des décharges de transit ou les décharges contrôlées, jusqu'à ce qu'on va amener au niveau de la décharge finale. Donc, il faut une gestion durable de ces déchets que vous venez de déposer comme problème. Mais si on n'arrive pas à gérer les déchets, alors ça, les déchets vont nous envahir et ça va nous amener des maladies. La terre en République démocratique du Congo, c'est l'espace qui est convenable pour la République. Nous avons 2 345,410 km² de l'espace. Et nous sommes censés de bien gérer notre espace. Bien qu'aujourd'hui, il y a un peu de menaces de gauche à droite, mais nous n'allons pas nous laisser faire. Nous sommes en train de dire aux autorités que la gestion de l'espace, ça doit être durable, responsable. On doit respecter les normes urbanistiques lors de l'occupation.
Professeur Jean-Willy Ndemi Killing, ingénieur topographe, spécialiste en sciences de l'environnement et recteur de l'université du CEPROMAD à Inongo en République démocratique du Congo. Des propos recueillis par Marie-Josée Moando Boisboileau.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du service Français-Afrique de Radio Vatican, Stanislas Kambashi qui vous l'a présenté vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes.